Donc Dieu avait prévenu des siècles avant que, effectivement, un sauveur viendrait, avec des précisions assez étonnantes. Un enfant qui viendrait d'une vierge. Il faut être fou pour marquer des choses comme ça. Avec précision, dans une ville précise, Nazareth, une ville perdue. À tel point que certains ont dit, mais qu'est-ce qui peut venir de monde là-bas? Il n'y a rien. Mais on a surtout remarqué que entre la dernière fois où Dieu est parlé à son peuple et la venue et la naissance de Jésus, 400 ans de silence. 400 ans de silence. Il n'y a pas eu de publicité, il n'y a pas eu de feu d'artifice, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de signe particulier qu'on dit voilà, faites attention, le Messie vient. Non! On avait pris cette image du faire-part que le peuple avait reçu des centaines d'années avant. Un faire-part de 700 ans. Parce que c'est à peu près les datations des prophètes de Michée et d'Ésaïe. Un faire-part, une invitation à une naissance 700 ans avant que ça arrive. Nous, on perd vite nos papiers. Mais là, il n'était pas question de perdre les prophéties bibliques. Et le jour J arrive. Ça y est. Le jour J arrive. Jésus naît. Alors, il y a deux textes bibliques qui nous rappellent ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a eu en Luc chapitre 2, mais là, on ne va pas revenir parce que les... Voilà. Je ne sais plus comment vous appelez, les artistes, les acteurs, nous ont très bien mimé ça la semaine dernière. Le premier texte, il se trouve dans Luc. Et là, je fais juste évoquer les choses parce que vous allez voir que c'est important. Il nous est dit que Dieu envoie des anges aux bergers. Il vous est né un sauveur. Mais à quoi verrons-nous ça? Allez là-bas et vous verrez un petit enfant. Surpris, étonné, un peu incrédule, mais très impatient de voir. Ils y courent, ils trouvent les choses telles qu'elles étaient annoncées. Et là, ils sont heureux, étonnés, émerveillés. Un instant. Dieu se manifeste non pas au roi des rois de la région. Il va se manifester à de saints bergers pour une annonce extraordinaire. Le Messie, le Sauveur, vous est né. Et il voit qu'effectivement les choses se sont concrétisées telles qu'elles ont été annoncées, mais annoncées par l'ange, mais également par les Écritures. Et on sait qu'il y a une culture après de l'oralité. Les choses se disent, se racontent, se témoignent. Dieu s'est servi de simple berger pour prévenir son peuple que les choses annoncées d'avance sont en train de s'accomplir. Je vous rappelle une chose, et c'était un peu l'intérêt aussi de méditer, de reméditer sur la première venue de Jésus, c'est que je vous rappelle qu'il y a une autre promesse qui nous est faite, c'est le second retour de Jésus.
Oui, amen.
Et si celui qui a adopté une certaine technique, une certaine mentalité pour la venue du Messie, du Sauveur, je crois qu'il y aura des parallèles évidents avec le deuxième retour de Jésus. Dieu ne s'est pas servi des grands prophètes de l'époque, Dieu ne s'est pas servi de grands fanfaronnages, il ne s'est pas servi du président de la République de l'époque pour annoncer que le Messie était venu. Il s'est servi de simples bergers. Les choses se sont accomplies, les choses arrivent. Qui va croire, qui va écouter un berger? Des pauvres gueux de la campagne là. Ah ouais, vous avez des hallucinations, vous voyez des anges qui vous parlent. Mais vous êtes qui? Mais le deuxième texte que je voudrais prendre en référence ce matin, c'est que si Dieu s'est servi de simple berger pour rappeler à son peuple que les choses sont en train de s'accomplir, en même temps que ces deux petits bergers sont là en train de s'émerveiller autour du petit bébé qui est né là dans de conditions très humbles, en même temps, le message est communiqué de manière internationale. En même temps, sans Internet, sans Facebook, sans Skype. En même instant, le monde entier d'alors recevait le même message. Vous savez comment ? Même pas. Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Versets 1 à 12. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient. Alors, l'Orient par rapport à ici, c'est plutôt à l'est, quoi. Mais là, on est déjà à l'est. Donc, c'est par rapport à nous, c'est l'extrême-orient. C'est les pays qui sont complètement à l'est sur la carte. Donc, des mages d'Orient arrivent à Jérusalem et disent « Mais où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Oh, mieux que Skype, hein ? Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui était écrit par le prophète, en l'occurrence Michée, « Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Ce texte-là a été écrit 700 ans avant cet événement-là. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Dieu avait bien dit les choses, le peuple savait qu'il y avait des signes. Continuons. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'enquit soigneusement. Écoutez bien, parce que c'est, on va revenir sur ces points-là après. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait ? Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez et prenez des informations exactes sur ce petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Ils quittent Jérusalem pour partir trouver cet enfant. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis, en songe ne point retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 16, et ce sera notre dernier verset. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. Nous allons voir que nous allons être épatés de la manière dont Dieu parle et de l'exactitude de ce que nous prétendons être la parole de Dieu. Je dis bien prétendre, parce qu'il y a des fois on lit ça, on dit « Ah bah oui, c'est la parole de Dieu, ça, alléluia !» Mais on oublie que celui qui a écrit ça, c'est Dieu lui-même. Nous n'avons pas un livre d'images, nous n'avons pas un livre d'anecdotes. Et quand Jésus dit qu'il revient bientôt et qu'il nous donne des signes, il y a des précisions auxquelles nous devons prendre garde, mes bien-aimés. Et Jésus ne vient pas chercher une église qui s'endort. Il vient chercher des cœurs bouillants. Lorsque nous avons lu cette histoire, il y a là cette histoire d'étoiles. Et elle va nous mobiliser cette matinée, parce que non seulement elle va nous émerveiller de la manière dont Dieu fait, mais elle va permettre aussi de comprendre d'autres éléments du texte. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà vu des représentations de dessins où on représente cette scène avec des rois, enfin souvent des gens, des mages, souvent un peu avec des couronnes, d'ailleurs je l'ai vu avec des couronnes, sur des dromadaires, ils marchent, souvent c'est la nuit, et au-dessus on voit, qu'est-ce qu'on voit ?
Une étoile.
Une étoile
filante.
Souvent c'est une étoile filante, on est d'accord, on a à peu près tous la même représentation, un peu naïf. Et quelque part, ça pourrait correspondre, une étoile, hop, elle avance, toc. Bon, ok, une étoile filante, ça dure combien de temps ? Ça file,
une étoile filante.
Surtout que eux, ils habitent loin de Jérusalem. Et il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que nos bien-aimés, là, nos amis, ils ont mis plusieurs mois pour faire le trajet. Nous, ça nous prend quelques secondes de lire ça, ils sont partis. Mais ils ont fait un voyage de plusieurs mois. Qu'est-ce que ces gens sont allés faire de leur pays pour arriver en plus à Jérusalem, il faut le faire. Est-ce que le hasard, soi-disant par rapport à une étoile, qui les aurait guidés ? L'histoire est bien plus sérieuse qu'une histoire d'étoile filante. Et Dieu est un Dieu prodigieux. Il ne fait pas toujours des miracles au sens où il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Mais Dieu est le Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Il y a des fois, mes bien-aimés, il faut que nous sachions, même pas réalisons, parce qu'on ne l'aurait jamais ou pas à ce moment-là, mais il faut que nous sachions que même si on ne voit rien de nos yeux, Dieu prépare des choses. Même si effectivement, à l'heure même, tout apparaît sec, tout paraît froid, tout paraît stérile, Dieu prépare les choses dans les lieux célestes, mes bien-aimés. Même si nous, on est incapables de sonder les profondeurs de ce que fait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est jamais en repos. Il travaille, il travaille, il travaille, il prépare les choses. Et nous, on considère toujours les choses qui nous touchent, qui nous concernent. On est bien souvent trop sensible aux choses directes qui nous concernent. Alors que Dieu, lui, a un message, a une vision, a une puissance qui est au-delà de ce que nous pouvons même voir, comprendre. Dieu agit sur terre, il agit dans les cieux, il agit dans les lieux spirituels, mes bien-aimés. Nous n'avons pas un Dieu juste là, de quelques centimètres carrés, qui se tournerait autour de notre nombril. La Bible nous dit que toute la création, Dieu la tient dans le creux de sa main, mes bien-aimés. Soyons des hommes et des femmes qui ont la vision de la grandeur de notre Dieu. Et dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est que ces messieurs ne sont pas des rois mages, ce sont des mages. Qu'est-ce que les mages d'Orient ? Et là, on va rentrer, pardonnez-moi, dans des considérations très historiques, dans des considérations scientifiques, mais qui mettent en évidence comment Dieu est au-dessus de nous, de nos limitations humaines. Les mages d'Orient, ce sont en fait des prêtres. Des prêtres d'une certaine religion de l'époque, qui était assez répandu dans ce qu'on appellerait, nous, l'extrême-orient. Cette religion, elle existe encore, même si elle est beaucoup moins forte qu'aujourd'hui, s'appelle la religion des mazdéismes, le mazdéisme. Vous regarderez à la maison, il y a quelques caractéristiques là-dessus. Et une des caractéristiques de cette religion, et c'était aussi répandu dans d'autres cultures et approches, on va dire, mystiques, c'est que le mazdéisme observe énormément les astres. Alors j'alternerai certainement dans mon langage étoile, astre, mais comprenez que quand on parle d'étoiles, ça peut être les planètes, les astres. Hein. Et donc ces gens-là observaient énormément les étoiles. Ils regardaient énormément les mouvements des planètes, etc. Et comme la plupart de ces croyances, ils cherchaient à donner une interprétation, un sens à tous ces déplacements cosmiques. C'est de là qu'on l'on passe de l'astronomie à l'astrologie. Hein ? Qui n'est pas une science, hein, qui est juste une sorte de manipulation. Mais on a là l'essence des choses. Et ces hommes de l'époque, ces croyants de l'époque, observant les étoiles, voilà qu'exactement 7 ans avant Jésus-Christ, selon notre calendrier, ils observent quelque chose. Pourquoi autant de précision? Pourquoi dire 7 ans avant la naissance de Jésus? Parce que l'avantage avec les étoiles, les planètes, etc., c'est qu'elles répondent à des lois simples. Elles répondent à des lois simples. On sait très bien le circuit des étoiles, on sait très bien le circuit des planètes. C'est pour ça qu'on l'en sait aujourd'hui où étaient exactement les planètes il y a 2000 ans, 3000 ans, 10 000 ans, et qu'on sait dans 5 ans, dans 5 000 ans, dans 10 000 ans exactement là où elles seront. Parce que les étoiles, les systèmes et tout, c'est mieux que l'horloge. D'ailleurs, nos horloges sont fondées sur le rythme des étoiles et sur le rythme des planètes, etc. C'est une... Et là aussi, c'est un autre chapitre de la grandeur, de la perfection des œuvres de Dieu, quoi. Quand on scrute l'infini petit, on s'aperçoit qu'il y a un équilibre extraordinaire. Et quand on se projette dans l'immense, comment on dit, l'infiniment grand, merci beaucoup, on s'aperçoit qu'il y a une précision mais extraordinaire, extraordinaire. C'est nous qui essayons de coller les morceaux pour comprendre et de se caler à la précision. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on dit et quand les scientifiques disent que par rapport à notre calendrier, 7 ans avant Jésus-Christ, il s'est passé un événement particulier. Lequel ? Deux planètes, Jupiter et Saturne, se sont trouvés dans le même alignement. On appelle ça une conjoncture. La conjonction des planètes. Et pas seulement une fois, pas seulement deux fois, mais trois fois. Et on a même les dates, en juin, en septembre, en décembre, de l'an 7 avant Jésus-Christ, ces hommes-là, ces mages, ont vu dans le ciel Jupiter et Saturne dans le même alignement. Vous et moi, on aurait dit, bah ouais, tant mieux. Et alors ? Mais Dieu est incroyable. Parce que Dieu s'est servi de la culture de ces gens-là, de leur croyance de ces gens-là, pour leur donner un message. Parce que selon eux, selon la tradition orientale, cet alignement avait un sens. Ça annonçait la naissance d'un roi. Ça annonçait la naissance d'un empire, ou ça annonçait la naissance d'un prophète. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Car Jésus est un roi. Jésus est plus qu'un prophète, il est Dieu lui-même. Et la naissance de Jésus est l'annonce d'un nouveau règne, n'est-ce pas ? Waouh ! Et ces mages-là, quand ils ont vu cet alignement de ces planètes-là, ils ont dit, il est en train de se passer quelque chose. Il y a la naissance d'un empire, ou peut-être la naissance d'un roi, ou mieux encore, peut-être la naissance d'un prophète, mais il y a quelque chose. Et c'est pas seulement une fois, c'est trois fois qu'ils voient cet alignement. Et là, ils se disent, il faut qu'on aille voir cet homme, il faut qu'on aille voir cette naissance, il faut qu'on aille se prosterner devant ce signe que les dieux nous envoient. Et comme Dieu n'est pas limité en tout, ni dans les temps, ni dans les circonstances, parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses, et c'est lui qui a la maîtrise, mes bien-aimés, il a la maîtrise des temps et des circonstances. Nous voulons maîtriser les temps, pour nous c'est toujours trop tard, ou c'est jamais assez bien, mais Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Il s'est tu pendant 400 ans, et à ce moment-là, il sait que c'est le moment d'agir, parce qu'en plus de cet alignement-là, cet alignement de ces planètes ne se retrouve pas n'importe où dans le système solaire. Il se retrouve dans ce qu'ils appellent la constellation des poissons. Et là, on se dit, et alors ? Pour nous, c'est et alors ? Mais à l'époque, chaque constellation représentait une zone géographique précise du pays, de l'époque, des zones habitées de l'époque. Et vous comprenez qu'à l'époque, la constellation des poissons qu'ils avaient identifiée comme poisson, ils l'avaient associée à la région de la Palestine. Et là, on comprend le mécanisme de ces mages. Ils scrutent. Et dans leur croyance, lorsque ces deux planètes sont dans l'alignement, il y a la naissance de quelque chose d'extraordinaire. Non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois. Alors ils se mettent en quête, ils vont y aller. Ils disent, en plus, regardez, c'est dans la région de Palestine qu'il a dû se passer quelque chose. Allons voir. Et c'est là que je vous dis que, alors même que de simples bergers avaient la vision de cet ange qui leur parlait, qui leur dit, le Messie est arrivé, en même temps, Dieu donnait ce même message, un point de vue planétaire. Et voilà que nos mages partent. Eux, évidemment, ils vont se renseigner auprès de l'office du tourisme de l'époque, il était à Jérusalem. Comme les services étaient fermés, ils sont allés voir le roi. Dites-moi, il n'y a pas un roi qui est né chez vous ? Ben oui, un roi, ça se trouve où ? Dans le palais ? Il dit, un roi chez nous ? Bon, moi, je suis pas au courant. Fouillons-les. Ce qui est dit dans les Écritures. Mais effectivement, et là, ceux qui connaissent la parole de Dieu ont enfin des réponses. Mais bien aimés, nous sommes entourés d'hommes et de femmes qui se posent des questions. Et je vous rappelle que nous sommes, je crois, dans les mêmes temps. Le Seigneur revient bientôt. Nous avons les Écritures qui nous disent des signes précis. Il y a 15-20 ans, lorsqu'on disait ces signes, il y aura des tremblements de terre, il y aura des cataclysmes, il y aura de l'angoisse dans les nations de Dieu. Vous dites n'importe quoi, vous les évangéliques. Aujourd'hui, c'est à la télé qu'on nous le dit. Avec le même langage. C'est bizarre. Ça sent le soufre. On va tous mourir. La planète va s'éteindre. C'est le Apocalypse. C'est même plus nous qui le disons. C'est eux qui le disent. Mais ils n'ont pas les Écritures. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils espèrent encore changer les choses, même s'ils savent très bien que c'est foutu. Il faut que nous soyons les témoins et leur dire les signes et les prodiges que vous voyez, les cataclysmes que vous voyez, ce que vous voyez autour de vous. C'est écrit et surtout ça annonce quelque chose. Alors ces mages sont là dans le palais royal, on leur ouvre la Bible, on dit regardez, c'est écrit. Et ces mages ont la bonne attitude, ils croient en ce qu'on leur dit. Alors ils vont à Bethléem. Et là, l'histoire nous dit quelque chose d'étonnant. Parce qu'il semble qu'ils soient encore dirigés par l'étoile. C'est ce qu'on a lu ? Et là, Dieu est incroyable, mes bien-aimés. Incroyable. Parce qu'on est toujours avec ces histoires de planètes, d'étoiles, de ces astres qui ont un rythme connu. Et les astrologues, astronomes, pardonnez-moi, je ne faut pas les mélanger, hein, ont reconnu que le 20 février de l'an 6 avant Jésus-Christ, on se rappelle au début, les premiers signes dans le ciel, c'était l'an 7 avant Jésus-Christ. Et là, le 20 février de l'an 6, un an après, il nous est dit qu'un phénomène est apparu dans le ciel, la lune, Mars rejoignent Jupiter et Saturne au soleil couchant, donnant ainsi une luminosité grâce à la présence de Mars d'un rouge particulier. Ok, on imagine un peu la scène. Le soleil, la journée commence à diminuer. Et au moment où déjà il y a déjà Saturne et Jupiter qui sont dans l'alignement, il y a également la Lune et Mars qui se mettent dans le même alignement. Ça fait une luminosité particulière. Nos bien-aimés sont en marche. Mais le Soleil, la Lune continuent de faire leur mouvement. Et cette luminosité s'estompe. Et c'est là que l'on comprend ce verset qui nous dit qu'ils ont été dirigés jusqu'à ce que la lumière s'est éteinte. L'étoile qu'ils avaient vue allait devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Mais comment Dieu peut maîtriser les choses comme ça ? Parce qu'il est Dieu, mes bien-aimés. Parce qu'il est Dieu. Et ces mages-là ont été conduits par la grandeur, la sagesse, la puissance de la création de Dieu jusqu'à se retrouver là, juste à côté de la maison où se trouvait Jésus. Est-ce qu'on avait déjà réalisé ça? Mais bien aimé, il y a une leçon pour nous aussi. N'oublions pas que Dieu travaille le cœur de chacun, même des inconvertis. Et Dieu travaille le cœur des inconvertis, même sur la base de leur croyance. Pardonnez-moi, je choque peut-être. Mais c'est Dieu qui est le Dieu de la conscience. C'est Dieu qui est capable de parler à chacun d'entre nous selon notre langage, selon ce qu'on est capable de comprendre. Ne minimisons pas, n'écrasons pas les convictions, la foi des uns et des autres, parce que c'est peut-être sur cette base-là que le Seigneur se révélera. N'écrasons pas les choses, mais essayons de les éclairer à la lumière de l'Écriture. Ne soyons pas des inquisiteurs, ne soyons pas là des bourreaux, des assommeurs de la Bible. Mais apprenons à utiliser la Bible pour éclairer, pour orienter, pour faire comprendre à ceux qui nous entourent ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu perçois des choses spirituelles. Voilà, vis-les à la lumière de l'Écriture et tu te rapprocheras du Sauveur. Et c'est pour ça que l'on peut comprendre ce qui se passe après. Parce qu'il y a un enfant de... Allez, on va dire d'un peu moins de 2 ans. Je ne sais pas si vous avez fait les cadeaux hier. Mais je ne suis pas certain que vous ayez offert à vos enfants de moins de 2 ans de l'or, de l'encens et de la myrrhe, quoi. Non, c'est pas le genre de cadeau qu'on offre à un enfant de 2 ans. Mais l'or a un message. L'or représente la royauté. Ce n'est pas tant l'or que ces hommes apportent, mais c'est le symbole de cet or. Ils ont apporté de l'encens, symbole de la divinité de cet enfant. Et ils ne se sont pas seulement contentés d'apporter, ils se sont prosternés devant cet enfant. Je vous rappelle qu'ils ont une autre croyance, ces gens-là. Ils ont une autre conviction. Mais devant l'évidence de ce qu'ils ont vu et de l'accomplissement des choses, ils réalisent dans leur cœur qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce qu'ils ont cru, de ce qu'ils ont pu percevoir jusqu'à maintenant. Ils ont offert de la myrrhe. La myrrhe a plusieurs langages, mais Jésus les incarne tous. La myrrhe est souvent associée au parfum, aux soins, et on peut y voir là l'amour, la grâce de Jésus. Alléluia. La myrrhe était aussi utilisée pour l'embaumement des corps, pour le soin après la mort. Et ça, ça nous évoque évidemment l'œuvre que Jésus fera à la croix. À peine né, que déjà les prémices de sa mort sont déjà annoncées. Cela nous explique également pourquoi Hérode, après s'être soigneusement renseigné sur la date des premiers signes que ces Masdéens avaient vus, a décidé de tuer tous les enfants à partir de 2 ans et en dessous. Parce qu'il savait très bien que ça avait plus d'un an qu'il y avait déjà ces signes qui étaient apparus à l'autre bout de la planète. Et il s'est dit, oh, on ne va pas être à 6 mois près, on va tous les zigouiller à partir de 2 ans et d'en dessous. Alors, autant aller jusqu'au bout de la logique. Mais alors, on a un problème dans notre calendrier, alors. On est en quelle année? 2017. Et moi, je vous parle de 6 ans ou 7 ans avant Jésus-Christ, il est né. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'humanité n'a pas toujours fonctionné avec le calendrier que nous avons. Et au 6e siècle, il y a un monsieur, c'était un moine. J'ai marqué son nom, Denis le Petit, je crois qu'il s'appelait, ouais, Denis le Petit. Et cet homme-là a eu la bonne idée de se dire, bah, On va changer le calendrier, on va essayer de fixer la date précise de la naissance de Jésus. Alors il a fait des études. Et puis voilà, il a déterminé l'an 1, à partir duquel on parlerait de après Jésus-Christ et avant Jésus-Christ. Alors tout le monde a dit félicitations, t'as bien bossé, super, à partir de maintenant, on va se baser là-dessus. Et la boulette, il s'est trompé. Et oui. Et aujourd'hui, on sait qu'il s'est trompé effectivement de 6 à 7 ans. Alors peut-être que quelques-uns sont un peu troublés parce qu'ils vont dire « Oui, mais non, moi j'avais entendu que c'était à peu près 4 ans. 4 ans. » Et en fait, il faut faire attention. Parce que lorsqu'on parle de 4 ans, que quand certains disent « Oui, Jésus est né 4 ans avant Jésus-Christ. » Bon, je sais que je suis un peu technique là, mais... En fait, on ne parle pas de la naissance de Jésus. Comme on n'a pas de date précise sur la naissance de Jésus, 6, 7 ans, les historiens, ils ont raison, ne peuvent pas dire il est né de telle date, étant donné qu'on n'a pas une date précise. Par contre, on a une date connue dans la Bible, qui est la mort d'Hérode, celui dont on a parlé là. Okay ? Et lui, on sait qu'il est mort 4 ans avant Jésus-Christ. Et l'on sait que ces événements se sont produits là, quelques années avant la mort d'Hérode. Donc souvent ce que l'on dit, et je reprends la phrase qui est souvent usitée, c'est que la naissance de Jésus a eu lieu dans les dernières années du règne d'Hérode le roi, mort 4 ans avant Jésus-Christ. Donc quand on parle de 4 ans avant Jésus-Christ, c'est qu'on a une date vraiment de repère. Hérode est mort en 4 ans et Jésus est né un petit peu avant lui. Donc c'est pour ça que l'on parle souvent que Jésus est mort que Jésus est né 4 ans à peu près avant Jésus-Christ. Mais ce serait plus précisément si on s'affirme sur les étoiles entre 6 et 16 ans avant Jésus-Christ. 6 et 7 ans avant Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Ce n'est pas 4 ans, ce n'est pas 6 ans, ce n'est pas 7 ans. Quand Jésus est venu, les Écritures en avaient parlé. Jésus a dit, je reviendrai. Jésus a permis qu'il y ait 400 ans de silence avant que le Messie vienne. Voilà plus de 2000 ans qu'on attend ce retour, c'est vrai. Isaïe a dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est venu comme un rejeton. Il est venu. Et on l'a considéré comme humilié, rejeté. On n'a fait de lui aucun cas. Faisons attention que nous ne soyons pas de la même nature. Jésus revient, mes bien-aimés. Jésus revient. Et notre cœur doit être prêt à cela. Je ne sais pas si c'est pour cette année, si c'est pour les années à venir. Mais Jésus revient pour une église qui est dans l'attente de ce retour et qui n'est pas dans l'incrédulité, qui n'est pas embarqué dans les vanités, les soucis, les tracas de ce monde. Le monde va de plus en plus nous oppresser avec les tracas, avec les guerres, avec les soucis, et c'est son job. Mais nous gardons les yeux fixés sur la parole de Dieu, sur les promesses de Jésus. Les signes n'ont jamais été aussi intenses, mais ça, on n'est pas les premières générations de prédicateurs à le dire. Mais ils sont importants de les rappeler. Même le monde s'étonne de ce qui se passe autour de lui. Même le monde. Nous sommes appelés à leur rappeler. Oui, Jésus revient. Mettez-vous en règle. Le Messie est venu et il reviendra. Le Messie est mort et il veut pardonner vos péchés. Il vous aime tel que vous êtes, mais il faut venir à lui. Reconnaissez sa grandeur. Reconnaissez sa divinité. Jésus n'est pas seulement un prophète. Il est le roi. Il est le Dieu. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Que Dieu nous aide encore cette année à rappeler à l'humanité qui nous entoure. Gardez les yeux fixés sur l'Écriture. Le libérateur vient. Quand? Nous ne le savons pas. Mais les choses vont s'accomplir. Renouvelons nos cœurs de la promesse de la parole de Dieu. Et elles s'accompliront certainement. Amen. Amen.